BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandoin.
Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission BFM Crypto, le club, l'émission où on parle de ce secteur crypto avec les acteurs qui comptent évidemment. On va parler du Clarity Act, de réglementation de Bitcoin, des cours. On va répondre à vos questions parce que vous savez que vous pouvez nous écrire à cette adresse crypto@bfmbusiness.fr. Mes invités aujourd'hui, Grégory Raymond, cofondateur de The Big Whale. Bonjour Grégory.
Bonjour Sandra.
Ravi de vous avoir. Vous retrouvez sur le plateau Alexandre Lézé. Bonjour Alexandre.
Bonjour Sandra.
CEO de Capital B et Morgane Henlandu, fondatrice de Crypto 360. Bonjour Morgane, ravie de vous avoir. Vous nous répondrez à toutes les questions qui sont tombées dans la messagerie tout à l'heure. Le club BFM Crypto, c'est parti. Et donc ce Clarity Act, Grégory Raymond, on en parle, il a fait remonter le Bitcoin dans l'été, on était drôlement contents. Mais bon, voilà, ça stagne. Il y a un vote annoncé au Sénat mardi prochain, le 15. De quoi il s'agit et que contient le texte pour un petit peu rafraîchir les mémoires?
Oui, tout à fait. La rentrée arrive avec une nouvelle grande loi crypto aux États-Unis. On connaît le Genius Act, qui était la première grande loi sous Trump qui a été votée il y a à peu près un an, qui offrait un cadre général au stablecoin. Et là, c'est la deuxième grande loi donc qui arrive au Sénat. On ne sait pas encore ce qui va se passer, mais en simplifiant, si vous voulez, il y a toujours eu un débat aux États-Unis. Quelle autorité de régulation doit s'occuper des cryptos?
Oui.
Est-ce que c'est la CFTC qui, en gros, encadre les matières premières, ou est-ce que c'est la SEC, donc l'équivalent aux États-Unis de l'AMF, qui encadre les titres financiers, les titres immobiliers? Donc, en fait, qu'est-ce qu'est le Bitcoin en fait? Et ça faisait 10 ans à peu près qu'il y avait ce débat aux États-Unis. Et donc, cette loi est censée trancher en fait, et donc le Bitcoin reviendrait plutôt à la charge de la CFTC, donc comme l'or, comme l'argent, donc comme une matière première. L'Ether aussi serait concerné, donc c'est plutôt une très bonne nouvelle en fait si ce texte passe. Et il y a aussi un élément très important, c'est au niveau de l'éthique. Vous savez, Donald Trump fait beaucoup parler de lui sur ses projets crypto. Il investit beaucoup, mais il lance des projets crypto. Et parfois, on peut quand même déceler des conflits d'intérêts, même des délits d'initié,
oui,
parfois. Donc en fait, ce texte est censé un peu régler le problème.
Le Genius Act, vous en aviez parlé, ça avait notamment réglementé les stablecoins, me semble-t-il.
Oui.
Pourquoi le Clarity Act, celui-là, il bloque?
Alors, il bloque parce que justement, il y a un sujet donc sur l'éthique que je vous disais. Forcément, les Républicains, ils n'ont pas envie d'embêter Trump, hein. Donc le côté éthique, il est quand même énormément poussé par les démocrates. Mais jusqu'où ça va aller? Parce qu'en fait, dans la mouture actuelle, et c'est pour ça qu'il y a un petit blocage, c'est que pour l'instant, le président en fait n'aurait juste à déclarer ses intérêts crypto. Ça l'empêcherait pas de faire. Il devrait juste dire ce qu'il fait. Et bon, Trump jusqu'à présent, ça le dérange pas trop. Tandis que les démocrates, en fait, ils voudraient carrément en fait interdire au président des États-Unis de lancer des projets crypto. Donc ça chope énormément à ce niveau-là.
Oui.
Il y a aussi un petit sujet sur les développeurs d'applications décentralisées, par exemple des plateformes d'échange décentralisées, là où on peut échanger une crypto contre une autre et où il n'y a pas d'entreprise au milieu pour gérer les échanges. En fait, là, il y a un élément dans le texte, c'est est-ce que les développeurs, les créateurs de ces applications-là, est-ce qu'ils sont pénalement responsables si, par exemple, un terroriste utilise cette application décentralisée? Il y a des sujets comme ça. Il y a aussi le sujet des rendements des stablecoins, parce que vous savez que les stablecoins sont adossés à une réserve en cash ou alors en obligation souveraine qui génère donc du rendement. Est-ce que les gens qui détiennent des stablecoins, ils peuvent avoir du rendement? Donc, les banques sont farouchement contre, notamment JP Morgan. En Europe, c'est déjà interdit, ça. Mais voilà, il y a tous ces sujets-là dans le Clarity Act et ça va faire donc l'objet de beaucoup de débats.
C'est intéressant parce qu'on voit que les débats n'avancent pas du tout de la même façon qu'on soit en France ou aux États-Unis, Alexandre Lézé.
Ouais, je pense que de manière générale, le Bitcoin n'a pas besoin de réglementation. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour l'Europe et pour les États-Unis aussi d'ailleurs. Là, je pense que ce qui est important à travers le Clarity Act aux US, c'est que ça peut pérenniser la grande faveur qu'il y a eu sur le marché Bitcoin, actif numérique avec l'administration Trump, mais de le pérenniser avec un acte législatif qui vraiment le fasse perdurer dans le temps à travers les administrations. Ça, c'est l'enjeu du Clarity Act. Au-delà de certains points techniques, c'est vraiment de mettre un tampon du législateur américain sur l'écosystème des actifs numériques et de permettre aux banques de commencer vraiment à proposer des services à l'échelle sur le Bitcoin, les actifs numériques, la tokenisation d'actifs financiers, etc. En Europe, on a fait la réglementation avant, mais il n'y a pas eu beaucoup de capitaux qui sont arrivés pour vraiment tirer parti de ces réglementations. Les États-Unis, c'est un animal différent. Oui. Il y a le marché de capital le plus important au monde. Et donc, effectivement, si eux, ils se lancent sur la réglementation pérenne, ça va impacter aussi les investisseurs dans le marché européen parce que ils vont se dire, si les États-Unis le font, c'est que c'est important. On avait déjà le droit de le faire, mais là, on a l'autorisation maintenant des grandes banques américaines à travers le Clarity Act. Et donc, en tant que banque française, on va aussi se lancer un peu plus fortement.
Politiquement, est-ce que ça donne une idée de ce que pensent les démocrates et les républicains des cryptos en général? On sait par exemple, rien qu'en regardant Donald Trump, que bah, avant son élection, il était plutôt contre. Et puis finalement, ça a été un grand argument pour le faire gagner lors de sa deuxième mandature.
Tout à fait. Et là, je pense que ça nous permet de nous rendre compte à quel point les mentalités, elles ont évolué aux États-Unis. Avant novembre 2024, donc avant l'élection de Donald Trump, on avait les républicains qui étaient plutôt favorable, voire très favorable, et les démocrates, c'était pas vraiment leur sujet. Les cryptos, ils étaient voire même contre, hein, parce que on se rappelle de la SEC qui à ce moment-là était sous administration démocrate, était vraiment très très anti-crypto, anti-bitcoin, donc ça posait un gros problème. Là, en fait, aujourd'hui, quand on regarde les débats, il y a un consensus en fait sur le fait que la crypto-économie, c'est une partie du futur de la finance, donc il y a plus vraiment de débat là-dessus. Et là, le sujet, comme je vous disais, c'est vraiment sur l'éthique, sur ce qu'ont le droit de faire les responsables politiques avec les cryptos. Et quand on regarde les débats, en fait, on parle pas vraiment de Clarity Act ou de loi crypto, c'est plus une loi Trump, en fait. C'est pour ou contre ce que Trump peut faire.
Alexandre disait tout à l'heure ce que ça pourrait permettre de faire ce texte s'il passe, mais s'il ne passe pas, est-ce qu'on va faire un retour en arrière dans le secteur pour autant, ou simplement on va s'arrêter à un certain nombre de prérogatives et ça n'ira pas plus loin?
Pour moi, en fait, il y aura une sorte de paralysie, en fait, juste s'il n'y a pas de vote. Tout ne sera pas perdu sur tout ce qui a été fait sur les cryptos pendant 2 ans, mais par contre on sera à la proie d'une agence type de la SEC ou CFTC qui, étant donné qu'il n'y aura pas de loi, elles pourront faire un peu au cas par cas. Et, mettons, si le Congrès se renverse, on pourrait voir un peu le retour d'une administration un peu anti-crypto. Tandis que, voilà, s'il y a une loi, il y a une loi, ça sera gravé dans le marbre. Donc, c'est un peu le risque.
Le calendrier, c'est quoi, Grégory, maintenant? Et est-ce que, finalement, on peut aboutir, à votre avis, à quelque chose en 2026?
Alors, la Chambre des représentants a déjà voté pour le Clarity Act en 2025. Mmh. Et là, en fait, ça fait des mois qu'on débat au Sénat. Et même s'il y a un vote mardi, en fait, ça sera juste un vote qui autorisera le Sénat à continuer à discuter. Mardi, il n'y aura pas de vote de la loi. Si on vote pour continuer ou pas, le petit problème, c'est est-ce qu'on pourrait avoir un vote d'ici la fin de l'année? C'est un peu compliqué parce que le 17 septembre, c'est-à-dire 2 jours après le vote du Clarity Act, en fait, les sénateurs, ils partent en campagne pour les midterms.
Ouais.
Donc, il va falloir se dépêcher. Ça reste possible, hein, qu'il y ait un vote, mais bon, le temps compte. Hein, donc, il ne faut pas tellement compter dessus, je pense, à court terme.
Alexandre, est-ce que vous, avec l'entreprise que vous avez, vous regardez les réglementations, ce qui se passe aux États-Unis, ce qui est bloqué, ce qui avance, est-ce que ça a un impact sur votre business?
Non, aucun impact. Ça peut amplifier sur le temps long les opportunités avec tous les grands acteurs américains.
Oui.
Mais les ETF Bitcoin sont déjà lancés. Les Bitcoin Treasury Companies sont déjà lancés.
Il y a une question de confiance quand même dans ce que vous
faites.
C'est
vrai, ça peut fournir un effet d'accélération. Voilà. Et en même temps, en tant que ce Clarity Act n'est pas passé aussi, eh bien, la seule manière d'avoir des expositions Bitcoin, c'est les ETF, c'est les Bitcoin Treasury Companies. Donc, s'il ne passe pas, les Bitcoin Treasury Companies, les ETF resteront les seules solutions dans le domaine traditionnel. Et si ça passe, il y aura plus d'offres Bitcoin direct auprès des grands acteurs bancaires et d'autres offres, hein, d'ailleurs. Et en fait, ça aura aussi un effet positif puisque ça va augmenter la taille du marché, ça va augmenter la taille des actifs sous gestion des grandes banques liées au Bitcoin, aux actifs numériques.
Oui.
Et donc aussi les flux vers les ETF et les Bitcoin Treasury Companies. Donc de notre côté, c'est relativement neutre, mais c'est vrai que sur la tendance, On a tous quand même intérêt à ce que ça passe, puisque ça vient donner ce tampon de légitimité supplémentaire. On l'a déjà du gouvernement américain, mais effectivement, il suffit que l'administration change pour que tout soit renversé. Et maintenant, si on l'a du législateur, ça donne une confiance supplémentaire. Il peut y avoir un nouveau législateur qui arrive et qui change la donne, mais ça devient de plus en plus difficile. Là où j'ai confiance dans l'avenir et dans la capacité des États-Unis à avoir une législation, même si c'est pas dans un mois ou deux mois, mais d'ici la fin du mandat Trump, c'est principalement que les régulateurs en ont vraiment besoin, qu'il y a beaucoup de sujets sur la table, que les grandes banques ont envie de se lancer comme jamais, et donc peut-être qu'il va y avoir des ajustements pendant un an ou deux ans, mais il va y avoir un texte, parce que tout le monde en a besoin, il y a besoin de clarté, et on peut pas... passer comme ça 10 ans sans aucune réglementation sur un sujet qui devient si important.
On vous sent confiant.
Et pour prolonger le propos oui, d'Alexandre, Grégory. Effectivement, tu parlais des grandes banques, elles ont besoin quand même de cette loi pour pouvoir prévoir leurs investissements sur le temps long. Donc il y a quand même un sujet pour les banques.
Vous parliez tout à l'heure des midterms. Si Trump les perd, si le texte n'est pas voté, est-ce que la crypto est menacée ou c'est reporté simplement ce dossier-là, quoi qu'il arrive? Et effectivement, il n'y aura pas forcément de retour en arrière, comme le disait Alexandre.
Je pense que beaucoup d'observateurs un peu anti-crypto en profitent pour dire que c'est la fin des cryptos aux États-Unis. Non, pas du tout. Comme Alexandre le disait très bien, les ETF, notamment les ETF Bitcoin, ont attiré énormément de capitaux. Là, aujourd'hui, rien que les ETF Bitcoin aux États-Unis, c'est quasiment 90 milliards de dollars. C'est toujours l'un des plus grands succès de BlackRock. Du point de vue des stablecoins, le Genius Act, lui, est passé. C'est des avancées qui sont énormes. Et je discutais il n'y a pas longtemps avec l'administration française là-dessus, ceux qui travaillent sur ce sujet-là. Il me disait, en fait, le texte le plus important pour nous, du point de vue international, c'était le Genius Act. Le Clarity Act est très important, mais localement, moins du point de vue international.
On va regarder un petit peu le cours du Bitcoin. J'aime bien faire ça, je suis désolée. Je ne peux pas m'en empêcher. 77 000 dollars, début du bull market, d'après vous. C'est quoi votre avis, Alexandre Lézé? Comment vous analysez ce qui se passe depuis, disons, le 1er juillet?
On est en train de rentrer dans le prochain bull market. Il est très probable qu'il y ait déjà eu un plus bas, autour de 58 000 dollars. Les volumes ont été extrêmement importants en août, avec une hausse de 30% du Bitcoin et du secteur des Bitcoin Treasury Companies également. C'est des volumes qui sont de l'ordre historiquement des moments où il y a des plus bas historiques et même des moments où il y a vraiment un engouement très fort. On le voit aussi sur les Bitcoin Treasury Companies, des volumes qui ont fait x2 et un intérêt des investisseurs qui est grandissant, des investisseurs qui n'étaient pas du tout dans le domaine les 4 dernières années et qui commencent à rentrer dans le secteur. On voit vraiment un engouement nouveau et surtout on a atteint des niveaux historiques qui n'avaient pas été vus depuis le dernier cycle. Par exemple, il y a 2 mois, c'était une des dernières fois où il y a 50% de l'offre Bitcoin qui était en perte et 50% en gain. Et quand on arrive à ces niveaux-là, en fait, il n'y a plus vraiment de vendeurs sur le marché. Et quand il n'y a plus de vendeurs sur le marché et qu'il y a une institutionnalisation très forte qui continue et qui s'accélère, on pourra en reparler, eh bien, le prix a vocation à aller augmenter. Et en plus, en parallèle, et ça, c'est une toile de fond qui est vraiment importante, on est en train d'entrer dans une phase d'accélération de l'inflation monétaire. Dans le passé, il fallait 10 ans pour que la masse monétaire fasse x2, ce qui est déjà beaucoup. Et maintenant, on fait x2 de la masse monétaire en 5 ans. Les taux de financement des États sont en train d'exploser de x2 à x5. Et quand les taux de financement des États explosent, il n'y a pas 10 000 solutions. Soit on augmente les impôts, et c'est très difficile, soit on baisse les dépenses, et on ne va pas compter dessus, soit on imprime beaucoup de monnaie. Ouais. Et les États-Unis ont annoncé délibérément qu'ils allaient sacrifier leur monnaie pour réinvestir dans leur industrie, pour la rebâtir, pour gagner la guerre de l'IA. On peut le voir aussi sur les marchés avec ces taux de financement qui explosent alors que les gouvernements disent qu'ils veulent racheter la dette. On peut le voir comme une perte de confiance face au dollar. On peut aussi le voir comme un regain de confiance dans l'avenir de l'Occident, des marchés occidentaux, des gouvernements qui veulent reprendre leur destin, réinvestir dans leur industrie, réinvestir pour gagner la guerre de l'IA et aussi s'approprier des actifs les plus rares, dont le Bitcoin.
Oui.
Et c'est pour ça que je suis très confiant dans l'avenir, parce que je pense que les États-Unis, en fait, sont en train de réinvestir dans des actifs très rares, que 50% des Bitcoins, à peu près en estimé, sont aux États-Unis, que c'est eux qui défendent le plus voilà, le développement des marchés de capitaux. Et comme vous le savez, notre rôle, c'est que l'Europe joue son rôle aussi dans ce futur-là.
C'est intéressant ce que vous venez de dire. Vous avez en partie répondu à la question suivante. Anthony Morel, qui est notre spécialiste tech ici et qui est un des grands connaisseurs du Bitcoin et qui suit cette monnaie depuis le début, me disait, je ne vois pas comment dans les années qui viennent, on va pouvoir aller au-delà de ce plus haut qu'on a connu l'année dernière à 126 000 dollars, parce qu'il manque des cas d'usage. Vous n'êtes pas d'accord? L'institutionnalisation, elle va jouer ce rôle de booster cette monnaie?
Le plus grand cas d'usage de l'histoire de l'humanité, c'est la réserve de valeur. Ça représente 500 000 milliards de dollars dans le monde entier. Il y a à peu près 900 000 milliards de dollars investis dans le monde dans des actifs financiers, dans de l'immobilier. Et la moitié de ces investissements, en moyenne, ouais, est pour de l'investissement long terme, c'est-à-dire de la réserve de valeur. Et quand la masse monétaire augmente par 2 tous les 5 ans, le cas d'usage, c'est de se protéger de l'inflation de la masse monétaire. Et le Bitcoin, il est fait pour ça. C'est l'actif le plus rare au monde, 21 millions. Et c'est le seul actif qui a cette rareté absolue comparé à cette inflation monétaire interminable. Et à l'ère digitale, notre croyance, c'est que le Bitcoin, avec cette rareté absolue, il a vocation à s'imposer comme la réserve de valeur à l'ère des marchés de capitaux digitaux. Et que les sociétés, les individus, les familles qui utilisent cet actif rare vont pouvoir se protéger de l'inflation. Et ça, je pense que c'est le cas d'usage le plus important.
Grégory.
C'est une question qui était très intéressante, ça, sur l'histoire du cas d'usage. Moi, j'aimerais faire un parallèle avec l'or. On sait que l'or, bien, c'est énormément utilisé en bijouterie. C'est aussi utilisé dans, par exemple, les prothèses dentaires. Enfin, mais la grande majorité de l'or, en fait, est stocké dans des coffres forts en tant que réserve de valeur. Donc au final, c'est pas si éloigné que ça. Et l'or n'a fait que augmenter sur toute son existence, qui est beaucoup plus longue que le Bitcoin.
Pour revenir sur les cryptos, Treasury Company, je recevais il y a quelques jours Stéphane Romanesine, le fondateur de Hetero, qui a fait le même pari que vous, mais sur Ethereum.
Exactement.
Pas exactement, mais il a créé une Ethereum Treasury Company et il dit, le Bitcoin, il n'y a rien derrière, en revanche, Ethereum, c'est l'infrastructure qui est intéressante, les stablecoins sont basés dessus, tous les projets crypto sont basés dessus, donc c'est la blockchain qui a de l'avenir et en plus, on peut miser sur le stacking. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Alexandre?
C'est une erreur traditionnelle, oui. C'est confondre l'infrastructure avec la réserve de valeur. Un ticket de métro, c'est très utile, mais c'est pas une réserve de valeur. Ça permet de se déplacer, c'est une tuyauterie. Ethereum, c'est une tuyauterie qui est très utilisée potentiellement pour de l'infrastructure financière, mais c'est pas une réserve de valeur. Les règles monétaires d'Ethereum ont changé une vingtaine de fois dans son histoire. Ethereum n'a pas une offre fixe. Ethereum n'est pas basé sur l'énergie du monde réel.
Mmh.
Et Bitcoin est le seul cryptoactif qui est basé sur l'énergie du monde réel. C'est l'équivalent de 21 réacteurs nucléaires à l'échelle mondiale. Et ça, c'est ce qui est derrière Bitcoin. Ce qui est derrière Bitcoin, c'est de la vraie énergie du monde réel. Et Bitcoin représente 97% de l'énergie du monde réel dans l'écosystème crypto. Ethereum, zéro. Et si il n'y a pas d'énergie derrière quelque chose, eh bien, ça n'a pas de valeur sur le long terme.
Voilà pour la réponse, Greg.
Petit bémol quand même, le prix de l'Ether, en tout cas de l'actif Ether, est censé s'apprécier si énormément de gens utilisent le protocole Ethereum.
Mm-hmm.
Il y a un système de burn, en tout cas on brûle des unités d'Ether plus le protocole est utilisé. Le problème, c'est que énormément d'autres outils se sont branchés sur le réseau et c'est eux qui captent les frais. Et le réseau Ethereum, donc on appelle ça des layer 2, le réseau Ethereum, c'est plus lui qui gagne en fait de l'argent, alors qu'il y a quand même de l'activité qui se produit sur ce protocole. Et c'est ça qui a un peu freiné, je pense, l'accroissement du prix de l'Ether. Donc il y a eu énormément de débats, d'atermoiements, ça a beaucoup changé, comme tu le disais. Et je pense que les gens ont un peu perdu confiance dans l'actif Ether comme actif d'investissement, mais c'est par contre le protocole à la base de la finance de demain, et ça j'en suis assez convaincu, moi.
On va répondre aux questions de la semaine et vous pourrez abonder ce que dit Morgane. Gilles Geoffrey nous demande, Morgane, bonjour, j'y comprends rien aux cryptos, il y en a encore, hein, je suis désolée messieurs, mais malgré notre émission, il y en a encore. Dites-moi simplement si cet argent fictif est bon à long terme et si oui, pourquoi ? Morgane ?
Tout à fait. Alors, elle est très intéressante cette question parce que c'est un moyen aussi de rappeler que 11% des Français actuellement possèdent des cryptoactifs selon le dernier baromètre de la DAN. Et donc, la plus grosse majorité de la population n'a aucune idée de comment notre écosystème fonctionne et ce qu'il apporte. Ensuite, pour répondre à cette question, évidemment, en deux minutes, c'est pas facile. Surtout qu'il parle d'argent fictif. Quelle est la plus-value si on le garde à long terme et pourquoi ? Et en fait, pour pouvoir répondre à cette question, il faut faire une distinction claire, surtout pour un débutant, c'est d'un côté Bitcoin et puis les cryptos. D'un côté, on a Bitcoin, c'est le premier succès mondial qui a été créé par Satoshi Nakamoto depuis 2009 et qui ne cesse d'être adopté. Pourquoi est-ce que je dis le premier ? Parce qu'il y a eu des ancêtres à Bitcoin. Je rappelle qu'il y a eu des projets qui ont été lancés, ils ont tous échoué avant Bitcoin. Et puis Bitcoin, avec son avènement, il a créé effectivement tout un écosystème, l'écosystème crypto. Mais quand j'utilise le mot crypto, Sandra, qu'est-ce que je sous-entends ? Parce qu'en réalité, est-ce qu'on parle d'un stablecoin ? Est-ce qu'on parle d'un meme coin ? Est-ce qu'on parle d'une crypto qui va nous donner un avantage, par exemple ? Ça, c'est une question qui est importante et qu'il faut comprendre. C'est qu'en fait, quand on dit crypto, il y a tout un écosystème en dessous qui est vivant, avec des catégories et des sous-catégories qui existent aujourd'hui. Pour moi, quand on démarre dans ce secteur, il faut déjà distinguer les deux, Bitcoin et l'univers des cryptos, et toujours s'intéresser à la base. La genèse de cet écosystème, c'est Bitcoin. Pourquoi est-ce que Bitcoin existe ? Et en fait, il faut se former un minimum. Il faut se poser des questions comme pourquoi est-ce qu'une partie de la population a souhaité avoir une alternative au système financier traditionnel ? Quelles sont les limites de ce système financier traditionnel ? Pourquoi avoir un actif qui ne dépend pas d'un pays, qui ne dépend pas d'un continent ? Je rappelle que Bitcoin est borderless, donc il n'y a pas de limitation géographique. Pourquoi avoir un actif qui ne dépend pas non plus d'une banque centrale ou d'un État, qui n'est contrôlé par absolument personne, qui a une rareté programmée depuis sa naissance ? Ça, c'est comprendre déjà mieux l'écosystème. Et puis ensuite, on peut aussi s'intéresser au système bancaire actuel. Et quand on s'intéresse à ce système, on réalise que 2 milliards de personnes, on parle quand même de 38% de la population, sont complètement laissées pour compte par rapport aux banques. Et ces personnes-là, elles ont aujourd'hui une solution qui n'existait tout simplement pas auparavant. Donc, comprendre notre écosystème, c'est aussi comprendre les solutions qu'il offre, principalement Bitcoin, mais il y a aussi tout l'univers des cryptoactifs. Et puis ensuite, moi, j'irai aussi sur l'axe qui s'intéresse aujourd'hui à Bitcoin, qui mise aujourd'hui sur Bitcoin. Et en fait, on réalise qu'il y a des institutions bancaires, il y a des institutions de prestige, comme par exemple l'Université d'Harvard. Pour les institutions financières, on a BlackRock, on a des pays entiers qui misent et qui investissent sur Bitcoin, parfois aussi sur d'autres cryptos. Et donc, l'adoption, elle est en fait en cours, mais il faut se former. Personne ne se réveille un matin en se disant « j'ai compris Bitcoin ». En fait, il faut allouer un petit peu de temps, se former. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de contenu gratuit en français pour comprendre Bitcoin, ce qui permet en fait de comprendre après tout l'écosystème. Et si la personne qui a posé la question est motivée, eh bien demain, j'organise le Crypto Day, ça démarre à 9h. Je fais justement une introduction pour les débutants, et chaque heure, vous aurez un intervenant différent qui va vous parler d'une autre thématique. C'est axé sur le grand public. C'est gratuit, donc il peut nous rejoindre. Il est le bienvenu.
Voilà, comme ça, il saura s'il achète directement du Bitcoin ou s'il passe par une Bitcoin Treasury Company. Après, il pourra faire le choix. Très, très vite, il vous reste 1 minute 30, Morgane, pour répondre à Luc qui demande pourquoi utiliser le DCA pour s'exposer au Bitcoin.
Tout à fait. Alors le DCA, c'est le Dollar Cost Averaging. C'est une méthode d'achat qui permet de ne pas s'exposer en un coup avec une somme sur un actif, mais plutôt d'acheter par vague. En fait, on va choisir une fréquence d'achat, on va choisir une somme qui sera toujours la même et on va évidemment choisir l'actif sur lequel on veut se positionner. En l'occurrence, ça a du sens sur Bitcoin. Pourquoi ? Parce que Bitcoin, intrinsèquement, il est volatile. Et donc, quand il monte ou quand il descend, eh bien, en fait, vous êtes exposé si ça monte et vous rachetez si ça descend. Ça permet aussi de lisser votre risque et d'avoir une moyenne d'achat sur le long terme qui est très très intéressante. Et puis aussi, le deuxième pilier, c'est une sérénité d'esprit. En fait, vous avez une méthode claire qui vous permet de ne plus procrastiner, d'essayer de timer le marché ou d'écouter vos émotions, au contraire. Et puis, ça parle aussi le DCA pour tous ceux qui n'ont pas beaucoup de temps. Parce qu'en fait, le DCA, on peut l'automatiser et en quelques minutes, on peut programmer des achats sur un an. Donc, le DCA, c'est vraiment un remède contre la procrastination, mais c'est aussi un bouclier contre nos émotions. Et par rapport à notre écosystème qui est assez volatile et qui est ouvert 24/24, eh bien, c'est une stratégie qui fonctionne extrêmement bien.
Oui, éviter l'AVC si jamais les cours baissent trop bas. Effectivement, c'est mieux le DCA. Pour ça, c'est plus stable. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus dans cette émission. Grégory Raymond, cofondateur de The Big Whale, Alexandre Lézé, CEO de Capital B. Merci messieurs. Et Morgane Henland, fondatrice de Crypto 360. N'oubliez pas le Crypto Day, c'est le 12. Donc, c'est demain à suivre. Effectivement, vous contactez Morgane et vous pourrez y assister. Il y aura plein d'infos sur ce secteur. Émission à retrouver en podcast et en replay, évidemment, sur BFM. Je vous laisse entre les mains de BFM Bourse. Très bonne journée sur BFM Business.
BFM Business, BFM Crypto, le club.